parler en cette matinée de la culpabilité. Parce que nous trouvons dans la parole de Dieu la bonne et la mauvaise culpabilité. Je crois qu'il est important de pouvoir nous y arrêter quelques instants parce qu'on sait que nous sommes tous venus un jour au Seigneur, forcément parce que Dieu nous a convaincus de péché, de justice, de jugement. Nous avons senti cette culpabilité face à notre péché, à notre situation. Et je voudrais aborder ce sujet parce que parfois, à un moment donné de notre vie, on pourrait tomber dans une certaine culpabilité qu'on appelle la mauvaise culpabilité. Alors, j'ai trouvé une histoire que j'ai vraiment trouvée marrante, mais qui est révélatrice de beaucoup de choses. On raconte l'histoire d'un contribuable qui, ayant triché dans sa déclaration d'impôt, adressa anonymement la lettre suivante à son percepteur. « Monsieur, veuillez trouver 6 juin 5 billets de 200 euros pour mes impôts, car je ne dors plus depuis des semaines. » Avec en post-scriptum cette note, et si je ne dors pas mieux dans les prochains jours, je vous enverrai le reste. Je trouvais ça formidable, mais parfois révélateur d'une situation où je comprends qu'après, plus tard, il risque de se retrouver encore coupable. Mais suite à la chute, la conscience a été, atteinte, faussée par le péché. Et c'est la raison pour laquelle la bonne culpabilité a parfois, été changé, modifié. Et certaines personnes sont aujourd'hui victimes de cette mauvaise culpabilité. La culpabilité est un sentiment qui affecte tout le monde, tôt ou tard. La culpabilité procure un sentiment, d'échec, de condamnation, de frustration intérieure. La culpabilité vient comme nous bousculer. Alors vous savez, il est possible de ressentir des sentiments de culpabilité sans être réellement coupable. J'ai rencontré parfois des personnes, vraiment culpabilisées sur quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Se sentir vraiment parfois coupable de quelque chose dont on n'est pas concerné. Et j'ai un exemple, l'exemple de David. Alors que Saül cherchait à tuer David, David aura un certain scrupule d'avoir coupé un morceau du pain du manteau de Saül. Il nous est dit dans la parole de Dieu, dans 1 Samuel chapitre 24, au verset 6 à 7, « Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est le loin de l'Éternel. » Et cet homme, David, se sentait déjà coupable d'avoir juste coupé un pan du manteau. Lui qui était traqué par Saül, alors que Saül était là pour le tuer, il passait des semaines à essayer de le traquer de partout et de vouloir essayer d'atteindre à sa vie. À un moment donné, Saül était fatigué, il dort au bord d'une grotte et David était justement dans cette grotte. Et en rentrant, enfin plutôt en sortant de cette grotte, il coupe ce pan de vêtements et il se sent repris. Incroyable, alors qu'il n'avait rien fait, il se sent coupable, il y a une sorte de culpabilité. Il culpabilise après avoir coupé ce morceau de vêtements. Et nous pouvons voir aussi le contraire. Le contraire, c'est quoi? Il est possible d'être coupable, sans ressentir de véritables sentiments de culpabilité. Et là, c'est déjà plus grave. Parce que si en tant que chrétien, on est coupable et on ne se sent pas, on n'est pas dans cette culpabilité, c'est grave. C'est que le Saint-Esprit, déjà, il est éteint. Le Saint-Esprit ne peut plus jouer son rôle. Et à un moment donné, David s'est retrouvé dans cette situation. Très curieusement, il n'aura aucun scrupule à commettre l'adultère avec Bathsheba, à cacher sa faute, puis à mentir et à supprimer Uri, le mari gênant. Et là, on trouve ça dans 2 Samuel chapitre 11. Et le chapitre 12, vous pourrez lire tout le texte. C'est incroyable, c'est qu'à ce moment-là, David, il commet l'adultère, il cache sa faute, il ment, il supprime Uri, et il n'y a rien dans son cœur. Il est coupable, mais dans son cœur, à ce moment-là, il n'y a pas de culpabilité. Et il se sent ému juste d'avoir coupé un pan du vêtement de Saül. Pour montrer par là, frères et sœurs, que c'est plus compliqué que ça, la culpabilité. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais m'y arrêter quelques instants, parce que c'est important de voir cela. Plus tard, la vraie culpabilité, parce que là, il faut quand même penser à David, qu'à un moment donné, il a été quand même repris par le Seigneur, le Saint-Esprit a agi dans sa vie, et plus tard, la vraie culpabilité, celle de Dieu, rentrera en action dans le cœur de David. Et c'est pour ça qu'il a écrit un psaume, le psaume 32, verset 3, un psaume extraordinaire. Il dit « Tant que je me suis tu », vous connaissez la suite, « mes os se consumaient ». Tant qu'il se taisait dans son cœur, c'était cocotte minute. Il n'en pouvait plus. Parce qu'à un moment donné, il était sensible à Dieu. Au moment où il a tué, il a menti, et puis il a commis l'adultère, bon voilà, il était complètement imbibé, imprégné par le péché, par ses envies, par ses pulsions, par toute cette addiction incroyable et inimaginable. Mais là, à ce moment-là, il se sent repris. Et il dit, mais oui, c'est vrai, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Et ça, c'est la bonne culpabilité. La culpabilité qui fait que tant que tu ne craques pas, tu te dessèches. Tant que tu n'ouvres pas ta bouche à confesser ton péché, tu es en train de te, comme le péché, comme la lèpre, tu es en train de te consumer à l'intérieur. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Ça, c'est l'action de Dieu qui agit de manière merveilleuse. Alléluia. La vraie culpabilité, celle qui vient de Dieu, sert d'indicateur et de révélateur. Et ça, j'aime ça. À la manière d'une jauge d'huile qui atteint la zone rouge, dès que vous commencez à la tête, oups, là, il faut arrêter. Ça commence à chauffer. Le moteur risque d'exploser. Elle indique une anomalie, un danger. La bonne culpabilité, celle de Dieu, va nous indiquer que là, on va trop loin et qu'il faut arrêter. Il faut peut-être maintenant revoir notre position. C'est ce qui s'est passé avec David. À un moment donné, il a vu que ça ne pouvait plus durer comme cela. Notre conscience réagit et entraîne la culpabilité. On doit remettre en question. Le fait de se taire donne l'impression que les eaux se consument. Le fait de se taire, alors qu'on a péché, alors qu'on est dans une situation délicate depuis peut-être des mois, des semaines, des années, tant qu'on se tait, que personne ne sait rien, il y a comme quelque chose qui est en train de se passer, il y a comme une bombe qui va exploser tôt ou tard. Et ça, c'est la bonne culpabilité, mais tant que tu retiens ça, le Seigneur ne pourra pas t'amener plus loin. Et c'est ça qui est important. Tant que le péché n'a pas été confessé, la conscience nous pèse. Et c'est vrai qu'il y a des limites entre nous avec ça, parce qu'à un moment donné, en tant que chrétien, si on ne veut pas déposer tout ça et qu'on veut enterrer à force ta conscience, le Saint-Esprit va dire, ben, puisque tu ne veux rien, que tu ne veux pas aller plus loin, ben, écoute, je te laisse tranquille. Après, la conscience, elle est morte. Mais tant qu'elle est en activité, avec David, elle a été en activité, et ça se consumait à l'intérieur. C'est ce que nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 22, il dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère. Ah, j'aime ça. De la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Vous voyez, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Approche-toi de Dieu. Lâche prise maintenant. Commence à vraiment à laisser Dieu agir dans ta vie de manière particulière, de manière puissante. À partir de ce moment-là, alors nous sommes libres. Et j'aime bien ce verset de Jean 8, 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous connaissez la suite, vous serez réellement libre. Preuve qu'on peut être libre, mais pas forcément réellement. La parole de Dieu nous précise que là, tu es libre, mais réellement libre. Parce que certaines libertés, en fait, ce sont de vraies prisons. Se croyant être libre, ils sont en prison. On est dans un monde où les gens disent, moi, j'ai envie d'être libre. Ah ouais, mais tu as une liberté du péché. La liberté du péché, c'est une prison. Mais la vraie liberté, la réelle liberté, c'est en Christ. Et c'est pour ça qu'il dit, si vous êtes réellement libre, vous serez, ou plutôt ceci, si donc le Fils vous a franchi, pardon, vous serez réellement libre. C'est-à-dire que c'est Jésus qui a franchi réellement, totalement, complètement. Et c'est ça la puissance. Et moi, la question que je voudrais peut-être te poser, aujourd'hui, est-ce que tu es réellement libre face à la culpabilité? C'est là la question. Vous êtes libre quand vous n'avez pas à convaincre tout le monde que tout va bien. Il y a des gens, ils sont toujours obligés d'essayer de convaincre que tout va bien. Et vous sentez que ça ne va pas. Mais tout va bien. Il y a une sorte de façade, une sorte d'apparence, double masque, vous voyez, double visage. Et tant que tu en es là à essayer de convaincre que tout va bien, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Voilà la vraie culpabilité, je dirais, selon Dieu. Et ça, c'est important. Elle ne laisse pas un goût amer, la parole de Dieu. La culpabilité, selon Dieu, ne laisse pas un goût amer. Elle ne donne pas l'impression d'un résultat inachevé. La culpabilité, selon Dieu, elle n'accuse plus. C'est terminé. Parce qu'une fois que tu t'es repenti comme David, on n'y revient pas dessus. La culpabilité, selon Dieu, elle ne laisse rien dans le flou, dans le vague, dans l'aléatoire. Non, oh non, loin de là. Quand Dieu retire sa culpabilité suite au pardon, nous sommes réellement libres. Et c'est ça qui est formidable, alléluia. Nous sommes réellement libres. Il y a cette liberté, je dirais, qui est dans notre vie. Par contre, la mauvaise culpabilité est étroitement liée à la manipulation. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais m'arrêter quelques instants là-dessus, parce que c'est en fait le cœur de mon message ce matin. Le cœur de mon message, c'est sur la mauvaise culpabilité. Cette culpabilité qui nous écrase, cette culpabilité qui vient nous enfoncer. Il est dit, c'est Paul qui parle dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10, en effet la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et quand on compare les deux, on s'aperçoit qu'il y a une différence entre la culpabilité selon Dieu et la culpabilité selon le monde. Hein, tristesse mondaine et tristesse de Dieu. La tristesse du monde précipite dans le désespoir, celle de Dieu donne espoir et provoque la repentance. La tristesse selon le monde nous tourne vers le passé, toujours vers le passé. Mais la tristesse selon Dieu nous amène toujours vers l'avenir. La tristesse selon le monde produit la frustration, l'insatisfaction. Mais celle de Dieu apporte la solution et la satisfaction. Et quand on voit la tristesse du monde, produit la mort, mais celle de Dieu produit la vie. Donne l'espoir, conduit au salut. Et c'est ça l'important. Et c'est pour cela que j'ai besoin de m'arrêter quelques instants sur la culpabilité selon le monde. Parce que vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses vraiment dramatiques. La mauvaise culpabilité pousse au chantage. Ça pousse au chantage. Nous retrouvons souvent la culpabilité dans le chantage affectif. On culpabilise l'époux, l'épouse, les enfants, les parents. Un père prêt à renier son fils, il ne reprenait pas l'affaire de famille. Mon fils, écoute, et je l'ai déjà entendu dans certains événements, certaines circonstances, je l'ai entendu, où le père dit, écoute, mon fils, si tu ne reprends pas l'affaire familiale, depuis plusieurs générations, je vais te renier. On fait un chantage, on culpabilise l'enfant. On se retrouve devant des situations compliquées où l'enfant est là et veut faire plaisir à papa, mais il n'est pas tout à fait convaincu dans son cœur et on fait des choses, on prend des décisions qui sont graves. Une mère qui menace sa fille de ne pas venir à son mariage parce qu'elle estime que ce n'est pas le bon mari. Elle dit, moi je l'ai choisi quelqu'un, ça serait peut-être mieux que tu prennes celui-ci au lieu de celui-là. Et vraiment, cette fille se retrouvant dans une situation délicate. Et puis après, ils vont voir le pasteur. Mais pasteur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que moi, je l'aime, cet homme. C'est vraiment un chrétien formidable. On s'entend bien, on a échangé. Ça fait plusieurs mois qu'on est ensemble. Mais ma mère, elle met une pression. Que je le quitte pour que je prenne celui-là. Parce qu'elle estime que celui-là est meilleur que celui que j'ai. Et là, il y a une culpabilité malsaine. L'époux à l'épouse. Si tu m'aimes vraiment, tu devrais accepter. Sans quoi, ça ne sera plus pareil entre nous. Accepter de peut-être pour un achat important, pour quelque chose que lui, il estimerait avoir à la maison, et elle retient parce qu'on voit que financièrement, ce n'est pas évident. « Oh, mais chérie, accepte !» Parce que lui, il voudrait quand même que sa femme accepte. Alors, il va le pousser, il va le pousser, il va mettre la pression jusqu'à ce qu'elle lâche. Et puis, à un moment donné, il va lâcher et dire « Écoute, si tu m'aimes vraiment, chérie, accepte !» Eh oui. Et on culpabilise. Et on est là à toucher la sensibilité, l'affectif de l'époux, de l'épouse. La mauvaise culpabilité pousse à des questions aussi parfois malsaines. Et surtout ça, on retrouve ça dans les couples qui divorcent, où l'un de deux dit ceci, tu aimes plutôt papa ou maman? Et quand vous vous retrouvez devant un gamin de 5-6 ans, devant papa qui est là en train de lui poser une question stupide, t'es en train de culpabiliser l'enfant. Et puis, il ne veut pas blesser papa et peut-être il n'a pas envie de recevoir une rousse de papa et dire, oui, papa, je t'aime toi. Et puis après, il va se retrouver seul avec maman puisque, voilà, il y a une garde alternée. Mais dans le cœur de cet enfant, va garder quelque chose de secret, n'osera pas en parler, en espérant même que papa ne va pas en parler à maman, en disant, tu sais, mon fils, ma fille, mais mieux moi que toi. Oui, il se retrouve après dans un étau, on verrouille l'enfant, on le culpabilise. C'est diabolique, ça. C'est diabolique. C'est une culpabilité qui enfonce des gens, qui enfonce des enfants. On construit parfois des gens dans des situations incroyables de culpabilité, d'accusation. Et ça, on retrouve ça dans le milieu chrétien. Et c'est là où c'est grave, où on se retrouve devant des situations parfois délicates. La mauvaise culpabilité provoque la jalousie. Quand des parents valorisent l'un des enfants et rabaisse l'autre. En général, des fois, on n'a pas besoin de le rabaisser. Il suffit juste de valoriser celui-là, puis l'autre, il est automatiquement rabaissé. Faire des préférences. Et l'autre petit ou l'autre qui n'est jamais valorisé va se sentir culpabilisé. Mais qu'est-ce que je fais là? Et parfois, on entend des paroles comme ça. Oh, mais de toute façon, lui, il n'a pas été désiré. Il est venu par accident. Et on culpabilise. Je vous partage de faits concrets que j'entends parfois. Et tout au long de mon ministère pastoral, nous avons parfois entendu des choses comme ça. Et c'est grave. Et c'est la raison pour laquelle la culpabilité, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte et qu'on ne doit pas, on ne doit pas garder. Je parle de la mauvaise, bien sûr, qu'on ne doit pas garder dans notre cœur si on en a subi les conséquences. Aucun compliment, aucune valorisation, ni de félicitations. Et on culpabilise. Quand votre patron complimente toujours votre collègue et vous jamais. Je me rappelle d'un frère qui est venu me voir un jour, il était énervé, il dit parce que j'ai donné des idées, je donne toujours des idées à mes collègues autour de moi, et puis après ils récupèrent cette idée, ils font quelque chose, ils réussissent, ils vont voir le patron le félicite pour une idée que lui il avait donnée. Et les autres sont toujours félicités, pas lui. Et il se sent vraiment parfois agacé, puis vraiment dans son cœur, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, même vis-à-vis de son patron, qui, à la limite, le patron lui montre que lui, il n'a pas d'idée. Mais non, c'est moi qui ai des idées, au contraire, mais il n'ose pas le dire. Il ne veut pas casser ses collègues. On se retrouve parfois devant des situations vraiment pathétiques. La mauvaise culpabilité est parfois étroitement liée au légalisme. Et combien parfois légalisme peut régner dans les églises en France et ailleurs? Le légaliste se substitue toujours à Dieu, toujours. Le légalisme est une contrefaçon de la véritable sanctification, frères et sœurs. C'est-à-dire que le légaliste a l'apparence de la piété, mais il a perdu ce qu'en fait la force. Il a une apparence. Il va vous montrer ce côté ultra spirituel. Il va vous montrer et il va vous faire sentir que lui, il a quelque chose que tu n'as pas. Dieu. Alors que tu es chrétien. Et parfois, il va amener les gens à une telle culpabilité, on va se sentir comme coincé. Et vous avez des signes qui ne trompent pas. Quand vous avez fini de parler avec un légaliste, vous avez un sentiment de culpabilité troublante, un mal-être intérieur. Vous avez même l'impression qu'une fois que vous avez fini de parler avec lui, vous avez l'impression que vous n'êtes même plus chrétien. Il est tellement saint, tellement haut, tellement au-dessus de tout le monde, que vous avez l'impression que vous n'êtes rien du tout. Et il y a des gens qui vous donnent un tel sentiment et vous culpabilisent pour tout et pour rien. Vous n'êtes pas assez spirituel, vous n'êtes pas assez ceci, vous n'êtes pas assez cela. Et eux, si vous commencez à gratter dans leur vie, vous allez vous apercevoir qu'ils ont des péchés énormes. Quelqu'un un jour, un prédicateur renommé, prédicateur, une sommité m'a dit un jour, tu sais Didier, les plus grands légalistes, ce sont les plus grands pécheurs en général. Et c'est eux qui le culpabilisent le plus. Et vous arrivez, vous êtes là, penaud, vous essayez de plaire à Dieu tant bien que mal, et bon, vous êtes écrasé. Vous êtes comme dominé par ces personnes. Et s'ils sentent une domination insistante, ils reviendront toujours vous voir pour essayer de vous dominer encore plus et davantage. Le légaliste procure l'impression que vous n'êtes rien du tout. Et comme je le disais, à se demander si vous êtes vraiment chrétien. Moi, j'ai connu quelqu'un qui faisait la guerre à la télévision. La guerre à la télévision. Et à une époque, ceux qui avaient la télévision à la maison, c'était diabolique, c'était le monde qui rentrait à la maison. C'était quelque chose de juste terrible. Et lui, il faisait la guerre à ça. C'était juste son jouet, c'était juste sa guerre à lui. Au lieu de combattre Satan, il combattait la télévision. Et il essayait de toucher les gens les plus faibles pour essayer de les culpabiliser par rapport à ça. Mais vous savez, le problème, ce n'est pas la télévision, c'est ce que l'on en fait. change de chaîne, regarde les bonnes chaînes et tu verras. Et Dieu merci, heureusement qu'il y a la télévision parce que nous sommes en train de filmer en ce moment. Ça va être mis sur Internet, alléluia. Et vous allez à mon église à paris.fr et puis vous allez voir des vidéos de prédications, des messages, des enseignements qui vont édifier, fortifier. Et on reçoit des dizaines et des dizaines de mails de gens qui veulent aller plus loin. Alors on les accompagne, on les aide, on les soutient, on les fortifie. C'est ça la communication. Alors Dieu merci pour la télévision, amen, alléluia. Mais cet homme faisait combattre cela, puis de l'autre côté, il avait des livres qui n'étaient pas très clairs. De l'autre côté, il écoutait des émissions à la radio de 2h, 3h du matin, qui étaient limites. C'est ça le légaliste. Et on vient après écraser, on vient dominer des personnes. J'en ai connu des légalistes, et c'est vrai qu'à les entendre, ben, ils étaient égaux à Dieu. Alors qu'en réalité, un légaliste promet plus qu'il ne procure. C'est vrai qu'il a servi plutôt qu'il ne libère. Le seul résultat auquel il parvient, c'est l'échec, la frustration, le découragement, la culpabilité. C'est ça le légaliste. Et j'ai connu des chrétiens vraiment écrasés par cela, des chrétiens dominés par cela. Quelqu'un disait un jour, en abusant de la lettre qui tue et en brandissant le spectre de la sanction, le légaliste maintient le chrétien dans la défaite spirituelle. Et peut-être que tu as subi cela, et peut-être que jusqu'à aujourd'hui encore, tu es comme tenu par rapport à cela. La mauvaise culpabilité pousse à l'autocondamnation. Il y a des gens, vous savez, il y a des personnes, certaines personnes s'autopunissent, ils se flagellent moralement, intérieurement. Ils se disent, mais je n'ai pas le droit, je ne mérite pas, je suis ceci, je suis cela, parce que pendant des années, on t'a dit que tu n'es pas assez spirituel. Et à un moment donné, quelqu'un un jour me le disait, me dit, vous savez frère, j'ai tellement eu marre qu'on m'écrase que maintenant je m'écrase tout seul. Et se flagelle tout seul. Il se minimise tout seul. En les écoutant, certains, ben, ils sont minables, ils sont bons à rien, ils sont ceci, ils sont cela. Ils s'écrasent constamment. Ils s'auto-flagellent dans leur vie spirituelle parce que finalement, à un moment donné, ils sont rentrés dans un processus de culpabilité tel qui se disent, ben, autant que je le fasse moi, au lieu qu'on m'enfonce, ben, autant que je m'enfonce tout seul. C'est-à-dire que même refusent de croire que Dieu les aime. Pas possible, pour eux non, pas moi, je ne mérite rien. Dieu est mort à la croix, Jésus est mort à la croix, oui c'est vrai pour tous les hommes, mais pas pour moi, ça c'est sûr, pas pour moi. Je ne le mérite pas. Refusent d'avoir une communion avec Dieu, pensant que ça ne sert à rien de lire la Bible, de prier, mais à quoi ça sert? Parce que de toute manière, vu l'état, vu ma situation, ce n'est pas possible. Vous voyez, on s'auto-flagelle parfois et on s'auto-condamne dans cette situation. Pire, et on refuse même le pardon de Dieu après avoir fauté. C'est-à-dire que certaines personnes se disent, mais non, Dieu ne peut pas me pardonner, ne peut plus me pardonner. Il le fera pour les autres, il aimera les autres, mais pas moi, ce n'est pas possible. Il arrive même parfois de ressentir à nouveau la culpabilité là où Dieu les a pardonnés. Et vous savez, j'ai rencontré un jour une personne qui avait fauté dans sa vie spirituelle. Elle s'en est repentie de sa situation, qui n'était pas très belle, certes, mais elle s'en est repentie amèrement, et Dieu a crié, Dieu a fait vraiment Dieu a posé sa main sur sa vie, elle a crié à Dieu, Dieu a agi de manière exceptionnelle, alléluia. Quelques années après, quelqu'un est venu le voir, parce qu'elle avait il avait plus ou moins vu cette histoire qu'elle avait vécue, et il a remonté son péché, là où Dieu l'avait pardonné. Il y a des gens qui sont capables encore de remonter ce que Dieu a pardonné, de remettre à la surface ce que Dieu a enterré, de faire ressurgir une culpabilité là où le Seigneur a complètement effacé et pardonné. Et c'est ça, il faut le refuser. C'est ça la mauvaise culpabilité. Cette culpabilité qui vient nous détruire, qui vient nous enfoncer. Là où un jour, nous avons eu la vraie culpabilité qui nous a amené au pardon, à la repentance, qui nous a restaurés, qui a fait de nous une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, mais un jour, après, on a avancé, et puis, poum, à un moment donné, on s'est laissé écraser, on s'est laissé enfoncer, on s'est laissé déstabiliser. Alors, devant tout ce que nous venons de dire, il y a une solution, frères et sœurs. La solution, nous la retrouvons dans Romains, chapitre 8, verset 1er. Il est dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation. De refuser, vraiment, de se laisser ajouter encore, se remettre à nouveau encore, ce joug, cette condamnation sur notre vie, ce n'est pas possible. Ce n'est pas tolérable. À un moment donné, réagir. J'aime bien cette parole de Dieu, il dit, celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix. Prendre cette position avec le Seigneur. Et j'aime bien Romains chapitre 8, toujours, mais au verset 30 et 35, il dit, à ceux qu'il a prédestinés, les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, amen, alléluia, on continue. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Dites-moi, qui accusera les élus de Dieu? C'est ça l'important, c'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, et bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et tu as été séparé à cause d'une mauvaise culpabilité. En croyant que le Seigneur t'avait rayé de son livre blanc, de son livre de vie, c'est faux, c'est un mensonge du diable. C'est un mensonge, cette fausse culpabilité dans laquelle tu as été dominé, écrasé, bafoué, tu as été abusé par ces choses-là. Mais ce passage de la parole de Dieu est tellement puissant, si tu te l'appropries pour toi, tu vas ressortir de ce lieu libéré. Parce que ça, c'est le défi du Seigneur pour toi ce matin. C'est vraiment quelque chose que le Seigneur voudrait que tu puisses, je dirais, saisir ce matin, je dirais, dans la présence de Dieu. Alléluia, Marianne, si tu pouvais venir. Je crois que c'est important de pouvoir réaliser ces quelques paroles. Et je vais terminer avec un dernier verset. Parce que ce verset, nous le retrouvons dans Galates, au chapitre 5. Où il dit, dans ce verset premier, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pas pour que tu sois à nouveau sous la servitude de ce monde, sous la servitude, je dirais, de la culpabilité charnelle, diabolique. Mais c'est pour la liberté que Christ est mort à la croix du calvaire. Alors il est dit, demeurez donc ferme. Mais ferme. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et j'aime bien cette parole parce qu'elle est d'actualité. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau. Ça veut dire que parfois, ça a été le cas. De nouveau. Parce que tu l'as été avant. Pourquoi une deuxième fois? Pourquoi il faut que tu sois encore, je dirais, dominé par ces choses-là? Il faut que tu sois affranchi, mon frère, ma sœur, par cette mauvaise culpabilité, par ces accusations injustifiées. S'il n'y en a qu'un seul qui peut t'accuser, c'est le Seigneur, ton Dieu. Et le Saint-Esprit est suffisamment compétent pour pouvoir le faire. Mais quand tu t'approches, personne... Vous savez, on sent la différence quand quelqu'un vient te dire des choses vraies, dures parfois, difficiles. On le sent quand quelqu'un te le dit, mais avec amour. Il te le dit avec vraiment de manière fraternelle. Tu sens qu'il n'y a pas d'accusation. Tu sens que cette personne, quand elle te dit quelque chose de franc, d'honnête, de clair, elle n'est pas là au-dessus de toi, elle est à ton niveau. Elle discute, elle parle avec toi. Tu sens vraiment qu'il y a quelque chose qui est derrière et tu acquiesces ce qu'elle te dit parce que tu sais que ce n'est pas de l'accusation. Mais il arrive parfois, et c'est peut-être ce que tu as subi un jour, ou peut-être c'est ce que tu es en train de subir maintenant. Quelqu'un te parle et te dit quelque chose, mais chaque fois que tu parles avec cette personne, tu pars, mais tu n'es pas en paix. Tu pars, tu te sens vraiment accusé. Tu pars, mais tu te sens comme jugé. Tu as l'impression que tu n'es rien du tout vis-à-vis d'elle. Et c'est là où on s'aperçoit que ça cloche, que ce n'est pas le Saint-Esprit qui a parlé, là. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a agi. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a parlé dans la bouche de ce serviteur, de cette servante, de ce frère, de cette sœur. Tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est la raison pour laquelle le Seigneur veut que tu prennes position pour lui ce matin. J'aimerais que nous puissions courber nos fronts.